Le centre invisible, le souverain qui doit se réveiller.
Vous dites qu'il y a aussi un rapport avec le Graal, s'informa Belbo.
Naturellement, et ce n'est pas moi qui le dis. Sur ce qu'est la légende du Graal, je ne crois pas devoir m'étendre. Je parle avec des personnes cultivées. Les chevaliers de la table ronde, la recherche mystique de cet objet prodigieux qui, pour certains, serait la coupe où le sang de Jésus fut recueilli, transporté en France par Joseph d'Arimathie, pour d'autres une pierre au pouvoir mystérieux. Souvent le Graal apparaît comme une lumière fulgurante. Il s'agit d'un symbole qui représente une force, une source d'immense énergie. Il nourrit, guérit des blessures, aveugle, foudroie, un rayon laser. On a aussi pensé à la pierre philosophale des alchimistes. Mais même dans cette hypothèse, que fut la pierre philosophale si ce n'est le symbole de quelque énergie cosmique? La littérature sur ce sujet est innombrable, mais on repère facilement certains signaux irréfutables. Si vous lisez le Parzival de Wolfram von Eschenbach, vous verrez que le Graal y apparaît comme gardé dans un château de Templiers. Eschenbach était-il un initié? Un imprudent qui a révélé quelque chose qu'il valait mieux taire? Mais ce n'est pas tout. Ce Graal, gardé par les Templiers, est défini comme une pierre tombée du ciel. Lapis exilis. On ne sait pas si cela signifie pierre du ciel, ex coelis, ou qui vient de l'exil. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de loin, et on a suggéré que cela pourrait être une météorite. En ce qui nous concerne, nous y sommes. Une pierre. Quoi que fût le Graal, pour les Templiers, il symbolise l'objet ou le but du plan.
Pardon, dis-je. Selon la logique du document au sixième rendez-vous, les chevaliers devraient se trouver près d'une pierre, ou dessus, mais pas trouver une pierre.
Autre subtile ambiguïté. Autre lumineuse analogie mystique. Bien sûr que le sixième rendez-vous est sur une pierre, et nous verrons où. Mais sur cette pierre, une fois achevée la transmission du plan et brisée les ciseaux, les chevaliers sauront où trouver la pierre. C'est en somme le jeu évangélique. Tu es pierre, et sur cette pierre, sur la pierre, vous trouverez la pierre.
Il ne peut en être qu'ainsi, dit Belbo. Je vous en prie, poursuivez. Casaubon, n'interrompez pas toujours. Nous sommes impatients de connaître le reste.
Donc, dit le colonel, la référence évidente au Graal m'a longtemps fait penser que le trésor était un immense dépôt de matière radioactive, à la limite tombée d'autres planètes. Veuillez considérer par exemple dans la légende la mystérieuse blessure du roi Amfortas. On dirait d'un radiologue qui s'est trop exposé. De fait, il ne faut pas le toucher. Pourquoi? Songez à l'émotion que les Templiers doivent avoir éprouvée quand ils sont arrivés sur le rivage de la mer Morte. Vous le savez, des eaux bitumeuses très lourdes, où on flotte comme du liège, et qui ont des propriétés curatives. Ils pourraient avoir découvert en Palestine un dépôt de radium, d'uranium, qu'ils ont compris ne pas pouvoir exploiter sur le champ. Les rapports entre le Graal, les Templiers et les Cathares ont été scientifiquement étudiés par un valeureux officier allemand. Je veux parler d'Otto Rahn, un Obersturmbannführer des SS qui a consacré sa vie à méditer avec rigueur sur la nature européenne et aryenne du Graal. Je ne veux pas dire comment et pourquoi il a perdu la vie en 1939, mais il y en a qui affirment. Eh, puis-je oublier ce qui est arrivé à Ingolf? Rahn nous montre les rapports entre la toison d'or des Argonautes et le Graal. En somme, il est évident qu'il y a un lien entre le Graal mystique de la légende, la pierre philosophale, la pisse, et cette source de puissance immense que convoitaient les fidèles de Hitler à la veille de la guerre, et jusqu'à leur dernier souffle. Remarquez que dans une version de la légende, les Argonautes voient une coupe. Je dis bien une coupe planer au-dessus de la montagne du monde avec l'arbre de la lumière. Les Argonautes trouvent la toison d'or, et leur navire est emporté par enchantement en pleine voie lactée, dans l'hémisphère austral où, avec la croix, le triangle et l'autel, ils dominent et affirment la nature lumineuse du Dieu éternel. Le triangle symbolise la trinité divine, la croix, le divin sacrifice d'amour, et l'autel est la table de la scène, qui portait la coupe de la résurrection. L'origine celtique et aryenne de tous ces symboles est évidente. Le colonel semblait pris par la même exaltation héroïque qui avait poussé au suprême sacrifice son... comment déjà ? Obersturmundrang, n'importe, diable de nom. Il fallait le ramener à la réalité. Conclusion, demandai-je. Monsieur Casaubon, elle ne vous crève pas les yeux? On a parlé du Graal comme d'une pierre luciférienne, en le rapprochant de la figure du Baphomet. Le Graal est une source d'énergie, les Templiers étaient les gardiens d'un secret énergétique. Et ils dressent leur plan. Où s'établir les sièges inconnus? Là, mes bons messieurs.
Et le colonel nous regarda d'un air complice, comme si nous conspirions ensemble.
Moi j'avais une piste erronée mais utile, un auteur qui devait avoir eu vent de quelques secrets, Charles-Louis Cadet Gassicourt, quelle coïncidence, son œuvre figurait dans la mini-bibliothèque d'un golf, écrit en 1797 un livre, « Le tombeau de Jacques Molay » ou « Le secret des conspirateurs à ceux qui veulent tout savoir ». Et il soutient que Molay, avant de mourir, constitue quatre loges secrètes, à Paris, en Écosse, à Stockholm et à Naples. Ces quatre loges auraient dû exterminer tous les monarques et détruire la puissance du pape. D'accord, Gassicourt était un exalté. Mais moi, je suis parti de son idée pour établir où vraiment les Templiers pouvaient situer leur siège secret. Je n'aurais pas pu comprendre les énigmes du message si je n'avais pas eu une idée guide. C'est normal. Mais j'en avais une. Et c'était la conviction fondée sur d'innombrables évidences que l'esprit templier était d'inspiration celtique, druidique, était l'esprit de l'arianisme nordique que la tradition identifie avec l'île d'Avalon, siège de la véritable civilisation hyperboréenne. Vous n'êtes pas sans savoir que différents auteurs ont identifié Avalon avec le jardin des Hespérides, avec la dernière Thulée et avec la Colchide de la Toison d'Or. Ce n'est pas un hasard si le plus grand ordre chevaleresque de l'histoire est la Toison d'Or. À partir de quoi devient clair ce que cache l'expression « château » ? C'est le château hyperboréen où les Templiers gardaient le Graal, probablement le Mont Salva de la légende. Il fit une pause. Il voulait que nous soyons suspendus à ses lèvres. Suspendus, nous l'étions. Venons-en au deuxième ordre. Les gardiens du sceau devront aller là où il y a ceux qui ont fait quelque chose avec le pain. En soi, l'indication était fort claire. Le Graal est la coupe du sang du Christ, le pain est la chair du Christ. Le lieu où on a mangé le pain est le lieu de la dernière scène, à Jérusalem. Impossible de penser que les Templiers, même après la reconquête sarrasine, n'eussent pas conservé une base secrète là-bas. Pour être franc, cet élément juif me gênait au début dans un plan qui se trouve entièrement sous le signe d'une mythologie arienne. Et puis j'ai changé d'avis. C'est nous qui continuons à voir en Jésus une expression de la religiosité juive, parce que c'est ce que nous répète l'Église de Rome. Les Templiers savaient très bien que Jésus est un mythe celtique. Tout le récit évangélique est une allégorie hermétique, résurrection après s'être dissous dans les entrailles de la terre, etc., etc. Le Christ n'est rien d'autre que l'élixir des alchimistes. Par ailleurs, tout le monde sait que la Trinité est une notion arienne. Et voilà pourquoi toute la règle templière dictée par un druide comme Saint Bernard est dominée par le nombre 3. Le colonel avait bu une autre gorgée d'eau. Il était enroué. Et venons-en à la troisième étape. Le refuge, c'est le Tibet. Et pourquoi le Tibet? Mais avant tout, parce que von Eschenbach raconte que les templiers abandonnent l'Europe et transportent le Graal en Inde, le berceau de la race aryenne. Le refuge est Agartha. Vous avez dû entendre parler d'Agartha, siège du roi du monde, la cité souterraine d'où les seigneurs du monde dominent et dirigent les vicissitudes de l'histoire humaine. Les Templiers ont constitué un de leurs centres secrets là, aux racines même de leur spiritualité. Vous devez connaître les rapports entre le royaume d'Agartha et la synarchie. À vrai dire, non. Ça vaut mieux. Il y a les secrets qui tuent. Ne nous égarons pas. En tout cas, tout le monde sait qu'Agartha a été fondée il y a 6000 ans, au début de l'époque du Kali Yuga, dans laquelle nous vivons encore actuellement. La tâche des ordres chevaleresques a toujours été de maintenir le rapport entre ce centre secret, la communication active entre la sagesse d'Orient et la sagesse d'Occident. Alors, il est clair que le quatrième rendez-vous doit avoir lieu. Et dans un des sanctuaires druidiques, la cité de la Vierge, c'est-à-dire la cathédrale de Chartres. Chartres, par rapport à Provins, se trouve de l'autre côté du fleuve principal de l'île de France, la Seine. Mais nous ne parvenions plus à suivre notre interlocuteur. Mais que vient faire Chartres dans votre parcours celtique et druidique?
Mais d'où croyez-vous que sort l'idée de la Vierge? Les premières Vierges qui apparaissent en Europe sont les Vierges Noires, des Celtes. Le jeune Saint Bernard était à genoux dans l'église de Saint-Voirle, devant une Vierge Noire. Et celle-ci pressa de son sein trois gouttes de lait qui tombèrent sur les lèvres du futur fondateur des Templiers. D'où les romans du Graal, pour procurer une couverture aux croisades, et les croisades pour retrouver le Graal. Les bénédictins sont les héritiers des druides, tout le monde sait ça.
Mais où sont-elles donc, ces vierges noires?
Ceux qui voulaient corrompre la tradition nordique et transformer la religiosité celtique en religiosité méditerranéenne, en inventant le mythe de Marie de Nazareth, les ont fait disparaître. Ou bien les ont déguisés, dénaturés, telles les si nombreuses madones noires qu'on expose encore au fanatisme des masses. Mais si on prend la peine de lire les images des cathédrales, comme a fait le grand Fulcanelli,
on voit que cette histoire est racontée en lettres claires et en lettres claires est représenté le rapport liant les vierges celtiques à la tradition alchimique d'origine templière, qui fera de la Vierge Noire le symbole de la matière première sur quoi travaillent les chercheurs de cette pierre philosophale, laquelle, on l'a vu, n'est autre que le Graal. Et maintenant, réfléchissez. D'où est venue l'inspiration à cet autre grand initié par les druides, Mahomet? Par la pierre noire de la Mecque. À Chartres, quelqu'un a muré la crypte qui met en communication avec le site souterrain où se trouve encore la statue païenne originelle. Mais à bien chercher, vous pouvez encore découvrir une Vierge Noire. Notre-Dame du Pilier, sculptée par un chanoine odiniste. La statue serre dans sa main le cylindre magique des grandes prêtresses d'Odin, et à sa gauche est sculpté le calendrier magique où apparaissait, je dis malheureusement apparaissait, car ces sculptures n'ont pas été sauvées du vandalisme des chanoines orthodoxes, les animaux sacrés de l'odinisme, le chien, l'aigle, le lion, l'ours blanc et le loup-garou. Par ailleurs, il n'a échappé à aucun des spécialistes de l'ésotérisme gothique qu'à Chartres, toujours, se présente une statue qui porte dans sa main la coupe du Graal. Mes bons amis, si on savait encore lire la cathédrale de Chartres, non pas selon les guides touristiques catholiques, apostoliques et romains, mais en sachant voir avec les yeux de la tradition la véritable histoire que cette forteresse d'Érec raconte. Et maintenant, nous arrivons aux Poplicans. Qui sont-ils?
Ce sont les cathares. Une des appellations données aux hérétiques était Poplicans, A-N-S. Ou Poplicans, A-N-T-S.
Les cathares du Midi ont été détruits, et je ne serais pas ingénu au point de penser à un rendez-vous au milieu des ruines de Montségur. Mais la secte n'est pas morte. Il y a toute une géographie du catharisme occulte, d'où naissent même Dante, les poètes du Dolce Stil Novo, la secte des fidèles d'amour. Le cinquième rendez-vous est quelque part dans l'Italie septentrionale, ou dans la France méridionale. Et le dernier rendez-vous ?